Bonjour, docteur Dubois.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Dépistage, ça semble un bien grand et gros mot qui peut intimider bien des gens. Et pourtant, ça fait plutôt partie d'une vie sexuelle active. Et on va tenter aujourd'hui d'un petit peu diminuer l'impact de ce mot-là, qui peut être, qui peut rendre mal à l'aise un petit peu. Qu'est-ce que c'est le dépistage des ITSS?
En fait, le dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang, c'est un moment où est-ce qu'on fait une intervention qui consiste à détecter l'infection chez une personne qui ne présente aucun symptôme. Pour la plupart des cas, il va s'agir de faire un questionnaire, soit par un médecin ou une infirmière, suivi d'un examen physique avec la prescription d'examens de laboratoire. Mais un dépistage, c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut faire la détection de personnes qui peuvent bénéficier de vaccins pour en prévenir une infection. Mm-hmm. Et c'est aussi le moment qui est choisi pour faire de l'éducation sur les infections transmises sexuellement et par le sang.
Et j'imagine que ça peut servir aussi à des gens qui présentent des symptômes.
Oui, tout à fait. En fait, si vous présentez des symptômes ou vous avez une inquiétude par rapport au fait d'avoir contracté une infection transmise sexuellement, vous devriez consulter sans tarder parce qu'on pourrait vous offrir d'abord un traitement pour les symptômes, mais aussi un traitement pour diminuer votre risque personnel de contracter une ITSS ou même de la transmettre à quelqu'un d'autre.
Je disais tout à l'heure que le dépistage, ça fait partie d'une vie sexuelle active. Si notre vie sexuelle n'est pas vraiment active, est-ce qu'on y va quand même?
En fait, il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. Si vous avez bien sûr des relations sexuelles, vous avez un risque. Vous courez un risque de contracter une ITSS. Mais il n'y a pas seulement lors des relations sexuelles qu'on peut être à risque.
C'est vrai.
Tout le monde, à un moment de sa vie, devrait se poser cette question-là personnellement. Globalement, bien sûr, les personnes actives sexuellement ou qui l'ont été dans le passé devraient se soumettre à un test de dépistage. Les utilisateurs de drogues intraveineuses ou par inhalation devraient aussi y aller. Les travailleurs ou travailleuses du sexe, les gens exposés à des liquides biologiques dans le cadre de leur travail ou les gens qui viennent d'un pays où le VIH est endémique, toutes ces personnes-là peuvent bénéficier d'un dépistage d'ITSS. Enfin, les indications sont vraiment nombreuses.
Est-ce que si on est avec un partenaire depuis très longtemps, on continue à y aller quand même?
En fait, c'est une question qui va nécessiter que vous ayez, je pense, une discussion ouverte avec votre partenaire pour savoir un peu si vous, votre partenaire, vous prenez des risques en dehors de votre sexualité en couple.
Et le dépistage, il est effectué par un gynécologue ou pas nécessairement? Le médecin de famille peut le faire?
Au Québec, une infirmière ou un médecin de famille aussi, peuvent prescrire les analyses sanguines et les prélèvements génitaux pour détecter les ITSS. Le médecin pourra détecter là, une infection à chlamydia, une gonorrhée, une hépatite virale, une syphilis, le VIH, le virus de l'herpès ou celui du papillon humain.
Mm-hmm. Et d'après vous, et ça c'est une bonne question, Dr Dubois, pourquoi les gens sont intimidés ou hésitent à aller voir leur médecin pour un dépistage des ITSS? La peur du jugement, peut-être?
Bien, je comprends la gêne, tout à fait, parce qu'on travaille avec des êtres humains. Puis quand on doit aborder le sujet de la sexualité, c'est un contexte qui est très intime et on doit faire des confidences.
Ouais.
Chaque personne vit sexualité d'une façon qui est différente et unique. Et il faut d'abord poser des questions pour apprendre à connaître comment vit une autre personne. C'est devant tout que chaque personne qui est dans cette situation de dépistage, autant le médecin que le patient, il doit adopter une attitude d'ouverture, de respect envers ce qui est affirmé là, dans la consultation.
Et quel genre de questions vous allez poser aux gens qui viennent vous voir pour le dépistage?
C'est sûr qu'on parle de sexualité. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, on va poser des questions d'abord sur les antécédents médicaux pertinents à la consultation, mais aussi on peut poser des questions sur l'orientation sexuelle. On va présumer que tout le monde est hétérosexuel non plus. Mm-hmm. On va aussi demander donc le nombre de partenaires, la fréquence des rapports sexuels, le type de rapport sexuel, s'il s'agit de relations orales ou de relations avec pénétration vaginale ou anale, et s'ils utilisent ou pas des moyens de protection comme le condom. On va aussi poser des questions sur le matériel d'injection chez les utilisateurs de drogue intraveineuse. Puis tout ça, on le fait pour préciser vos facteurs personnels pour mieux orienter le dépistage.
Oui, pour cibler, j'imagine, les facteurs de risque. Donc, à quel moment vous déterminez qu'un individu est peut-être plus à risque?
Donc, à un moment qu'on va déterminer, bien, c'est en posant les questions ou quand la personne va consulter pour une inquiétude. Mais le moment entre où on doit venir consulter pour un dépistage et qu'on a eu un contact ou qu'on a une inquiétude, mais qu'on n'a pas de symptômes et qu'on ne croit pas avoir un moment où est-ce qu'on a contracté une ETSS, on peut se permettre d'attendre quelques semaines à quelques mois. On nous parle d'une période fenêtre, aussi appelée une période aveugle, entre le moment d'un contact infectieux et le moment où est-ce qu'on peut détecter par des tests une ETSS. La période va varier dépendamment du type d'infection. Par exemple, pour une chlamydia ou une gonorrhée, le délai est de 1 à 2 semaines avant qu'on ait un test qui soit fiable pour détecter une infection. Ce délai-là va être un peu plus si on parle, on se questionne pour une syphilis, les hépatites virales, le VIH ou l'herpès, on parle plus de 8 à 12 semaines de période fenêtre à ce moment-là.
Donc, si je comprends bien, si on a eu un contact sexuel à risque, on doit quand même attendre pour que ça vaille quelque chose lors des tests, lors du dépistage.
Dans certains cas, oui, il y a cette période fenêtre. Dans d'autres cas, si on pense, par exemple, pour le cas précis du VIH, si on a une inquiétude pour d'avoir contracté le VIH, c'est préférable à ce moment-là d'aller consulter dès qu'on a de l'inquiétude, parce que à ce moment-là, on pourra offrir, si les facteurs de risque sont suffisants pour une transmission virale, une thérapie qu'on appelle de post-exposition pour diminuer le risque de la personne de contracter le VIH.
Et ça existe simplement pour le VIH ou d'autres ITS peuvent bénéficier de ce traitement-là?
Pour spécifiquement réduire le risque de contracter l'infection, c'est uniquement pour le VIH. Okay. Mais si vous présentez des symptômes, là, c'est du cas par cas.
Quand on parle, j'y reviens justement au VIH, on doit avoir, pour le détecter ou pas, un prélèvement sanguin. J'imagine qu'il y a des gens aussi qui ont peur des aiguilles, mais c'est le seul moyen de faire le test du VIH.
En fait, actuellement, au Québec, il existe la méthode via les prélèvements sanguins, où est-ce qu'on fait la recherche de plusieurs anticorps contre le VIH, mais aussi d'un antigène contre une protéine. On peut également faire au bout d'un doigt, comme on fait simplement une glycémie capillaire chez les diabétiques, un test qu'on dit test rapide pour le VIH, et en l'extérieur de quelques minutes, on peut avoir une idée, un bon aperçu à savoir si la personne qu'on a devant nous est infectée ou pas de façon chronique par le VIH. Mais la façon standard actuellement de faire le test, c'est encore avec la prise de sang.
Est-ce qu'il y a d'autres prélèvements lors des dépistages?
Oui, lors de l'examen physique, soit l'infirmière ou le médecin pourrait faire un prélèvement au niveau des organes génitaux, notamment chez les femmes. Mais ceci dit, il existe actuellement des méthodes valides d'auto-prélèvement génitaux pour les hommes et les femmes qui sont faits en cabinet.
D'auto-prélèvement, qu'est-ce que c'est ça?
C'est-à-dire que chez l'homme, par exemple, on n'introduit plus dans l'urètre le Q-tip, finalement, pour aller rechercher des sécrétions. Okay. On peut très bien faire le test dans l'urine. Ça fait que le patient va sortir du bureau quelques minutes et aller aux toilettes faire l'urine qu'on lui demande. Chez la femme, avec supervision, on peut enseigner à la femme comment se faire elle-même un auto-prélèvement au niveau vaginal pour la détection de la chlamydia ou de la gonorrhée.
Est-ce que ça fait mal?
Absolument pas. Ça ne devrait pas du tout faire mal de faire un dépistage. En dehors des prises de sang qui peuvent être craintes par certaines personnes ou des vaccins, qu'on va offrir pour justement prévenir une infection.
Et à partir de quel âge? Bon, j'imagine que ça dépend. Ça dépend à quel âge on a commencé à avoir une vie sexuelle active, mais vous conseillez à partir de quel âge de commencer à avoir des tests de dépistage?
Bien, comme vous le dites, à partir du moment qu'on commence à avoir des relations sexuelles, on court un risque de contracter une ETSS. Mais il n'y a pas d'âge pour ça.
Mm-hmm.
Hein, on voit beaucoup des jeunes, malheureusement, vous l'avez dit en introduction, les 15 à 30 ans sont vraiment la tranche de la population qui est le plus à risque de contracter une ETSS au cours de la prochaine année. Mais les gens aussi vieillissent, se marient et plus tard parfois divorcent. Puis autour des divorces, les gens retrouvent une certaine activité sexuelle. Donc, il y a un autre pic à ce moment-là d'infection. Donc, tout ça touche tous les âges et ça dépend beaucoup de ces facteurs de risque personnel. Puis je pense que c'est une discussion qu'il doit avoir à ce moment-là avec son professionnel de la santé.
Oui, c'est assez effarant, 40 000, docteur Dubois. Pourquoi les jeunes sont représentés, bien sûr, de façon malheureuse en ce qui a trait au ETSS? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plusieurs partenaires ou ça se passe ailleurs dans la prévention, dans le fait d'être à l'aise, de parler de sexualité et de prévention?
C'est probablement multifactoriel. Il y a probablement une composante d'éducation qui a peut-être été laissée un peu de côté dans les dernières années. Est-ce qu'il y a aussi un contexte où est-ce qu'on a des bactéries qui sont plus résistantes ou des bactéries qui ont plus de virulence? Ça aussi, ça pourrait expliquer pourquoi on a toujours à chaque année une augmentation du nombre de déclarations. Mais il faut aussi penser que est-ce qu'on a déclaré non seulement pas plus de cas parce que les médecins qui doivent déclarer les cas à la santé publique font mieux leur travail.
Ah oui, c'est une bonne question. Augmentation des cas, en même temps aussi, l'apparition de maladies, on pense bien sûr à la syphilis, là on en a entendu parler dans les derniers temps, qui renaît finalement.
Oui, tout à fait. La syphilis qui était pratiquement disparue il y a un peu plus, environ une vingtaine d'années, qui fait un retour épidémique, si on peut dire, dans la grande région de Montréal. Alors, on a de l'augmentation là, de plus de 1000% des cas de syphilis à chaque année. Moi, dans ma pratique, à chaque semaine, je vois des gens qui consultent, soit pour des syphilis primaires ou des syphilis secondaires. Donc, c'est fréquent maintenant.
Et une fois qu'une ETSS est détectée, quel est l'accompagnement de l'équipe médicale, que ce soit l'infirmière ou le médecin, suite à ce diagnostic-là?
Enfin, on va recontacter donc la personne pour lui offrir un traitement, bien sûr, mais aussi dans certains cas un suivi, puisque certaines infections qui vont nécessiter d'autres prélèvements ou un suivi plus rapproché. Et sinon, l'infirmière ou le médecin peut donner une référence au patient pour aller voir un autre professionnel de la santé.
Est-ce qu'il y a de l'accompagnement psychologique dans certains cas qui est proposé?
Oui, ça se fait naturellement, habituellement, par le médecin ou l'infirmière là, qui a fait le dépistage.
Maintenant, en terminant, et peut-être aussi dans cette veine-là pour rassurer les gens qui nous écoutent, je reviens un peu à cette introduction où l'on mentionnait que ça peut être parfois gênant d'aller voir un médecin pour le dépistage des ETSS. Bien sûr, tout ça est confidentiel. Je pense notamment, Dr Dubois, en fait, je précise ma question, à ces jeunes-là qui ont 18 ans et moins, parfois même plus jeunes, 13, 14 ans, et qui peuvent arriver dans votre bureau avec différentes interpellations.
Oui. En fait, il faut d'abord savoir que se faire dépister au Québec, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais monétaires pour les jeunes. L'information qui est collectée dans le dossier médical est complètement confidentielle, sauf pour des exceptions qui sont prévues par la loi. Donc, on ne va pas aller parler des problèmes de santé avec les gens, les proches ou la famille.
Oui. Benjamin Dubois, docteur Dubois de la Clinique A, également du CLSC de Saint-Henri, merci beaucoup. On glissera sur notre site les adresses de la Clinique A, qui est toujours une très, très bonne ressource.
Je vous remercie beaucoup, Mme Paquette.
Merci, au plaisir.
Au revoir.